Voilà donc ce curieux dialogue entre Marie-Noël et son Dieu, un Dieu n'ayant dit que donne, 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 et puis à la fin, quand elle lui demande ce qu'il peut bien faire de tout ce qu'elle lui présente, c'est-à-dire rien, Dieu lui dire qu'il est en train de constituer son royaume. C'est beau, hein ? Alors voilà, on va essayer de donner à Dieu quelques petites choses. Alors je vais en décevoir une bonne partie, parce que contrairement à ce qui a été annoncé sur le tract, je vois Charlotte qui sourit, qui a fait ce tract justement, je ne vais pas vous entretenir de notre bon saint patron Clodoald. Je m'en justifie, on sait quand même très peu de lui. J'ai farfouillé à droite à gauche pour essayer de trouver des éléments biographiques, tout comme vous j'imagine. J'ai écouté avec passion, pas seulement intérêt, la conférence de Franck Ferrand, qui a été donnée par la mairie. J'ai même entrouvert le livre de Mgr Ebram, qui vient de paraître, qui d'ailleurs vous sera proposé à la vente dès la sortie de cette petite causerie. Mais j'avoue, après avoir, avec mes confrères, travaillé à la préparation des petites vidéos PEPS, vous savez, certains d'entre vous les suivent, d'autres les suivront bientôt, que nous ne nous donnions pas cette peine en vain. J'avoue avoir été un peu perplexe, en fait, même dans la préparation de ces courtes vidéos, parce qu'il a fallu un peu broder, quand même. Je veux bien qu'on décline les qualités de Saint-Cloud, elles sont assez évidentes pour certaines. Elles sont un peu aventureuses pour d'autres, voilà. Quand il a fallu parler, le père Clément Rider me disait tout à l'heure que la dernière vidéo qu'il a donnée, donc on décline les différentes vertus de Saint-Clodoald, il fallait qu'il évoque la contemplation. Alors, mis à part le fait, ça on en est certain, qu'il était moine, et même qu'il était prieur ou père abbé peut-être, de sa communauté, quant à savoir de quoi était faite sa contemplation, c'est quand même un petit peu, enfin ça demande pas mal d'imagination. Voilà, bon, enfin je ne manque d'aucun respect à l'égard de ce saint fondateur, mais voilà, je préfère pour ma part ne pas broder et m'en tenir à des choses plus certaines. Ceux d'entre vous qui venez pour s'entendre parler des vertus de Saint-Clodoald et de son exemple éminent, je suis vraiment navré de ne pas être à la hauteur. Voilà. Je vais vous parler de la sainteté, à défaut, quand même. Enfin, je vais essayer. Je ne sais pas si je suis le plus autorisé pour en parler, mais enfin, j'ai lu des bouquins. Quoi. Voilà. C'est un petit peu ça qui me sert de bouée de sauvetage. Déjà, pour quiconque entend traiter de la sainteté, comme c'est mon ambition ce soir, doit garder à l'esprit, me semble-t-il, que cet hommage pardon, que nous rendons à Dieu à chaque fois que nous récitons le Gloria. Tu solus sanctus, toi seul es saint. Au sens strict, la sainteté n'appartient qu'à Dieu. Voilà. Vous n'êtes pas venu pour vous entendre dire cette banalité, mais tout de même, par conséquent, si la sainteté n'appartient qu'à Dieu, ce n'est qu'en contemplant tant soit peu Dieu que nous pouvons espérer comprendre un peu ce qu'est la sainteté. Or, il est évident, en dépit du fait que Dieu ait eu la bonté de se révéler, il est assez évident que, même à travers cette révélation, Dieu demeure essentiellement un mystère. Et dans la préface de la Divine Liturgie, c'est-à-dire de la messe de Saint Jean Chrysostome, une préface qui est inamovible, nos frères d'Orient disent ceci, confessent ceci à chaque divine liturgie, « Tu es un Dieu inexprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible. » Fin de citation, fermez le banc. Alors, c'est vrai qu'on sait que nos frères d'Orient, assez enclins à ce genre de ce qu'ils appellent la théologie négative, vous savez, ils préfèrent nier ce que n'est pas Dieu plutôt qu'affirmer ce qu'il est. Voilà, c'est un peu l'approche orientale, de la divinité, bon. Mais l'Occident n'est pas en reste parce que saint Thomas d'Aquin, figurez-vous, qui a passé sa vie à scruter le mystère de Dieu, a essayé d'en rendre compte dans des ouvrages que vous avez peut-être eu l'audace d'ouvrir un jour, des sommes incommensurables. Ce même Thomas d'Aquin nous dit ceci, « Nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas. » Et vous savez peut-être qu'à la fin de sa vie, au cours de la célébration d'une messe, Thomas d'Aquin a été gratifié d'une vision ou d'une, d'une locution, je ne sais pas exactement de quelle nature était cette manifestation divine. Toujours est-il qu'au sortir de cette messe, il a voulu brûler ses œuvres par humilité, en se disant que tout ça n'est que de la paille, que tout ce qu'il avait si savamment et si assidûment travaillé toute sa vie, et dont il avait essayé de rendre compte à ses écolâtres et à d'autres encore, tout ça n'était rien qu'un tas de fumier au regard de ce qu'il avait entrevu de la beauté de Dieu, de son immensité. C'est dire donc comme il est aventureux de vouloir essayer de rendre compte de ce qu'est la sainteté, celle qui est en perfection, qui est dans toute sa plénitude en Dieu. Elle est trop élevée, elle est trop vaste pour que notre pauvre petite intelligence, même si à Saint-Cloud nous ne sommes pas les pourvus, etc., pour que nous puissions adéquatement appréhender qui est Dieu. Donc il est déjà difficile, par son intelligence, de saisir Dieu et sa sainteté. Alors a fortiori, d'essayer d'en parler, c'est encore pire. Ce qui se conçoit bien, etc., vous connaissez ça. Comment voulez-vous que l'on puisse rendre compte de manière limpide de ce qui déjà, par l'intelligence, ne peut pas être conçu de manière limpide? C'est compliqué. Aussi, celui qui veut parler de la sainteté est contraint à de simples balbutiements, c'est donc ce que je vous propose ce soir, parce que, en son fond, la sainteté, je le redis, tout comme Dieu qui est saint par excellence, sont une réalité ineffable. Voilà. Alors, il faut quand même que je vous dise des choses. Vous n'êtes pas venu en vain, quand même. Et puis, il est nécessaire de sacrifier à ce double et périlleux devoir d'essayer de comprendre ce qu'est la sainteté et d'essayer d'en rendre compte, pas seulement parce que notre bon curé m'a demandé de le faire ce soir, c'est déjà par obéissance, c'est le carême, hein, donc voilà, mais aussi et surtout parce que nous sommes appelés, vous et moi, par pure grâce divine, à être des saints. Dieu ne garde pas pour soi ce trésor inouï de la sainteté, il entend la communiquer à sa créature. Dieu dit d'ailleurs au livre du Lévitique, vous connaissez ça comme moi, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Notre sainteté, et même, il faut toujours remettre les considérations très pratiques que je vais essayer d'avoir quant à la sainteté, enfin, je peine toujours à descendre dans les considérations pratiques, comme vous le savez, mais je vais essayer quand même ce soir, voilà, que vous puissiez ressortir avec non pas des os à ronger, j'espère, mais enfin des petites pistes de travail, et moi avec vous. Mais enfin, il faut toujours commencer par remettre en perspective les sujets dont nous parlons, surtout dans une église. Ces perspectives sont très élevées, très profondes. Notre sainteté, figurez-vous que c'est la seule finalité que poursuivait Dieu lorsqu'il nous a tirés du néant. Dieu n'a créé l'espèce humaine qu'afin que celle-ci devienne sainte. Et si je puis dire, il avait en tête, bon, c'est pas très convenable pour Dieu, mais il avait dans sa sagesse éternelle, depuis toujours, de toute éternité, cette volonté que nous puissions, que chacun d'entre nous, parce que puisqu'il est Dieu, il est capable dans notre singularité propre, de nous identifier, de nous aimer, de nous vouloir et de nous parfaire, eh bien, de toute éternité, la Trinité avait envie, voulait ardemment que nous puissions exister pour qu'il puisse nous communiquer sa sainteté. C'est ce que dit saint Paul aux Éphésiens, il dit ceci, « Dès avant la fondation du monde », là encore, phrase que vous connaissez bien, « Dieu nous a élus dans le Christ pour être saints et immaculés en sa présence. » C'est quand même assez étourdissant de se dire ça. Que faisait la Trinité? Que pensait la Trinité de toute éternité? Elle pensait bien des choses dont je suis incapable de rendre compte. Il s'aimait d'un amour incommensurable, il savait, etc. Bon. Mais aussi, il y avait une place pour nous, et une place, en fait, de prévision de sainteté. Dieu nous voulait saints depuis toujours. Mère Teresa de Calcutta disait à un journaliste que la sainteté n'est pas un luxe, mais que c'est une nécessité. Et quand elle disait cela, la sainteté est une nécessité, elle ne parlait pas seulement en catéchiste chevronnée qu'elle était, elle ne parlait pas seulement d'un devoir moral, mais elle parlait d'une nécessité ontologique, dit-on en termes techniques, d'une nécessité vitale, ancrée dans notre nature même. Je ne vais pas entrer dans les distinctions nature-grâce, que les spécialistes d'entre vous me fassent grâce justement de... Vous voyez, il y a cette nécessité que notre nature humaine accède à la sainteté et se déploie entièrement pour accéder à la sainteté. Au point qu'on peut affirmer que l'être humain qui ne veut pas même essayer d'être un saint mutile jusqu'à sa propre nature. C'est quand même étonnant. Il devient une sorte de monstre. Alors je sais que le terme est un peu jeté l'effroi, mais un monstre au sens strict du terme, pas les monstres qu'on voit dans les comédies, enfin dans les tragédies fantastiques, là où les... Un monstre, c'est quelqu'un qui malheureusement a une déformation profonde, soit de l'apparence, soit de son système psychologique. Voilà. Un être humain qui n'entame même pas de devenir un saint est en quelque sorte un monstre. En tout cas, il mutile jusqu'à sa propre nature. Il ne faut pas espérer se dire que la sainteté, c'est juste un Lego au-dessus de notre nature, un Lego parfaitement indépendant, qu'on pourrait retirer et la nature n'en souffrirait pas. Non. Si notre nature, un jour ou l'autre, ne débouche pas sur la sainteté, grâce à Dieu, bien sûr, pas par ses petites forces, on va le voir, alors elle est condamnée à être mutilée. Chesterton, vous savez, ce grand penseur anglais très ironique de la fin du 19e siècle, disait ceci: retirez le surnaturel, il ne reste que ce qui n'est pas naturel. Il ne reste même pas la nature. Ce n'est pas le Lego surnature qu'on enlève sans préjudice pour le Lego nature. Non, non. En arrachant le surnaturel, on détériore la nature elle-même. Donc je le redis avec mes propres mots, renoncez à la sainteté et il ne restera en vous pas même la nature humaine. Ou du moins, elle sera difforme. Elle aura quand même quelques restes, mais elle sera difforme. Ce qui donne tout son relief à une phrase d'un autre auteur du XIXe siècle, tout aussi polémiste que Chesterton, mais il s'agit de Léon Blois, qui vivait pas très loin d'ici, là, à Montmartre. Et Léon Blois disait ceci: il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas un saint. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas un saint. Effectivement, c'est triste. C'est triste non seulement parce qu'on ne rend pas amour pour amour à Dieu, parce qu'on ne fait pas tout le bien qu'on pourrait faire en étant des saints, c'est triste aussi parce qu'on mutile sa propre nature. Alors vous me direz, bon, dis donc, on était venu pour une conférence de carême, on sait qu'il y a toujours un côté un peu pénitentiel, mais enfin quand même, c'est un peu abrupt hein, comme entrée en matière. Oui, c'est vrai, j'en conviens, mais mon objectif est de créer un électrochoc. C'est que nous puissions, vous et moi, prendre enfin au sérieux la sainteté. Que nous puissions nous dire qu'elle est quelque chose de vital pour nous. Que nous l'envisagions vraiment comme une poussée, une nécessité impérieuse et non pas comme une simple option. Il faut avouer que c'est un peu notre tendance quand même. Peut-être pas quotidiennement, j'espère. Mais enfin, la plupart du temps, non ? De se dire, oui, bon... La sainteté, c'est bien d'ailleurs. Je viens de lire une biographie sur ça, Clodoal. Quel homme, quel saint. Bon, d'accord. Le carême est par excellence l'occasion de se regarder un peu en face, sans phare, d'éteindre voilà, tous les parasites et de se dire, attends, au fond, qui suis-je voilà, que fais-je voilà. Et il faut bien l'admettre, la sainteté suscite habituellement en nous une résistance. Ou simplement une indifférence. Alors je voudrais dans un premier temps vous dire quelques mots de cette répugnance à la sainteté, de cette résistance, que ceux d'entre vous qui êtes déjà consommés en sainteté me le pardonnent, c'est une étape qu'ils ont peut-être franchie à l'enfance ou à la prime adolescence, après quoi ils se sont immédiatement repris. Mais enfin bon, il faut quand même qu'on dise quelque chose de cette répugnance à la sainteté et de tous les artifices qu'on est capable de déployer pour tenter d'honorer l'appel à la sainteté qui nous est adressé, tout en l'esquivant. Voyez. Autrement dit, je voudrais envisager, après avoir vu pourquoi nous répugnons à la sainteté, quelles sont les fausses conceptions, quelles sont les contrefaçons de sainteté qui peuvent nous habiter. Ce sera en quelque sorte la face sombre de mon exposé. Et puis après, c'est l'abaissement pour pouvoir mieux se relever. Donc dans un deuxième temps, nous envisagerons, enfin, j'essaie de vous dire quelques mots sur la sainteté, ce que sont les saints, comment ils vivent, etc. Enfin, une sorte de reportage. Voilà. Je suis allé pour vous vivre au milieu des saints. C'est tout à fait voilà. Effrayant, mais édifiant. Alors, dans cette première partie, donc, pourquoi cette répulsion à la sainteté que j'évoquais à l'instant ? Pour le comprendre, il faut savoir en quoi consiste la sainteté pour l'être humain. Je l'ai dit en commençant, Dieu seul est saint. Par conséquent, devenir un saint, c'est ce qu'il nous a demandé, hein. Moi qui suis votre Dieu et qui suis saint, je veux que vous soyez les saints. Par conséquent, donc, devenir un saint, quand on est un être humain, c'est devenir Dieu. Dieu seul est saint, or il faut que je devienne un saint, donc il faut que je devienne Dieu. Petit syllogisme qui même, un soir de semaine, peut être saisi. Voilà. Alors entendons-nous bien, quand on dit qu'il faut devenir un saint, il ne s'agit pas de se compter, mais je dis ça par dérision parce que c'est évident, devenir une personne divine. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais que trois personnes dans la Sainte Trinité. Navré pour les ambitieux, voilà. Nous autres, nous ne pouvons non pas être une personne divine, nous ne pouvons que être rendus, selon la belle phrase de saint Pierre, participants de la nature divine. Voilà. Or, entrer dans cette condition divine, devenir participant de la nature divine, alors que ça devrait nous exalter. Enfin, on devrait être fiers d'un tel honneur et aspirer toutes nos fibres. Enfin, qui ne voudrait pas devenir Dieu, franchement? Et en même temps, c'est ce qui nous effraie. Et il y a plusieurs motifs au fait que nous soyons effrayés de devoir entrer dans la nature divine, en un mot, de devenir des saints. D'abord, je l'ai souligné plus haut, Dieu est un mystère. Dieu est mystérieux. Et le mystère implique toujours chez nous une part d'inquiétude. On est à la fois attiré par le mystère, on aimerait bien, notre curiosité nous pousse à essayer de déflorer le mystère, et en même temps, on a un peu peur de ce qu'on peut découvrir derrière, ou plutôt de voir ce mystère de face. Alors, l'être humain est ainsi fait qu'il préfère, c'est vrai, ce qui est familier à ce qui est étranger. Alors on me dira, dans un grand élan de bonté, que puisque vous avez tel ou tel accueilli des Ukrainiens, ou que vous mettez tous vos efforts dans des associations qui s'occupent des étrangers, fort bien, on est d'accord. Notez que ça implique quand même une espèce de domestication de soi. Parce que on est devant des personnes qui ont une autre culture. Parce qu'on est devant des personnes qui ont une langue qui est autre que la nôtre. Vous voyez déjà que dans l'espace de la vie terrestre, ce qui est mystérieux, entendons-nous, ce n'est pas un mystère définitif, parce qu'on peut apprendre la langue, parce qu'on peut devenir ami et donc partager la culture, etc. C'est déjà inquiétant. C'est déjà pas facile. Et alors, a fortiori, quand il s'agit du mystère de la sainteté, du mystère même de Dieu, les choses sont compliquées. Donc, être rendu participant de la nature divine, c'est quelque chose qui nous fait peur. Mais notez qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Dans l'Éden, que les plus anciens d'entre vous ont bien connu, d'avant la chute, donc dans l'Éden, le fait que Dieu fût mystérieux, et le fait d'être progressivement divinisé par lui, de recevoir de lui sa propre sainteté, n'impliquait aucune crainte. C'est nos premiers parents. Je les ai bien connus. Non, mais c'est ce qu'on voit quand même dans le livre de la Genèse. Il n'y avait crainte de rien. C'était comme naturel, alors que ça ne l'était pas du tout. C'était devant un Dieu mystérieux, mais il concevait qu'il était un Père aimant. Et donc, il n'avait aucune crainte devant ce Dieu-là. Et pas non plus la crainte, donc, d'être, comme au compte-gouttes, divinisé par lui. Mais depuis la faute, depuis qu'ils ont voulu devenir des dieux, justement, comme le leur proposait le serpent, à la force du poignet, par cet acte magique qui consistait à avaler un fruit, à moitié mûr, eh bien, la sainteté leur est devenue comme étrangère. La sainteté est devenue quelque chose de redoutable. Il y a eu une espèce de justice immanente. Ils se sont coupés de Dieu pour un temps. Et j'en veux pour preuve la réaction naïve de ceux-ci dans le troisième chapitre de la Genèse, lorsque, ayant croqué du fruit, et n'ayant pas du tout obtenu ce qu'ils escomptaient, donc la sainteté parfaite au point de devenir Dieu même, au contraire, ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher de Dieu. Et quand Dieu se promène à la brise du soir, comme nous dit poétiquement l'Écriture, et qu'il appelle « Adam, où es-tu ?» Que fait Adam, après avoir essayé de se planquer, mais bon, c'était vain, eh bien, il sort du taillis et il lui dit « J'ai eu peur. » Alors, bon, j'ai eu peur parce que je suis nu, bon. Et Dieu en vient en fait. T'as eu peur parce que t'as mangé du fruit. Mais plus fondamentalement, en fait, Adam a eu peur de Dieu. Et il a eu peur de la sainteté de Dieu, de la pureté, de l'immensité, de la perfection qu'impliquait cette sainteté. Et du reste, accepter d'entrer plus avant dans la sainteté, comme c'est notre vocation, eh bien, c'est se mettre à la remorque de Dieu. C'est marcher à sa parole, dépendre étroitement de lui, puisque lui seul peut nous conférer la sainteté. Si on doit avancer en sainteté, il faut être main dans la main avec Dieu, si je puis dire. Il faut le suivre et de près. Et le problème, c'est que, comme il nous dit, mes voies ne sont pas vos voies, et que nous autres, être pécheurs, avons tendance à vouloir être le maître de notre propre destinée, être le pilote de notre existence, nous voyons ça d'un mauvais œil. Viens, avance, je vais faire de toi un saint. Ouais. Vous voyez, on parle d'hétéronomie contre l'autonomie. Plutôt, on a l'impression que c'est opposé. C'est Dieu qui veut être la loi, qui veut nous dire « Écoute ma parole, écoute mes commandements, mets-les en pratique. » C'est d'ailleurs ce qu'il dit à longueur de page dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. À cet égard, rien de neuf. « Écoute-moi, tends l'oreille, chemin Israël, n'aie crainte. » Ouais. Qu'est-ce qu'il me propose là? Moi, je sais comment faire. Et combien de fois n'entrons-nous pas dans des espèces de discussions, de boutiquiers, pour ne pas dire pire, à l'égard de Dieu, persuadés que nous sommes, au fond, que nous savons mieux que lui ce qui nous conviendrait. Et même pour le meilleur. Au lieu d'aller le consulter pour savoir dans quelle œuvre il faut que nous nous engagions, quelle décision capitale il faut que nous puissions prendre dans notre existence, notre premier réflexe n'est-il pas de se dire « Attends, en dernier ressort, j'en appelle à l'aide de la Providence. Dans un premier temps, je vais d'abord me consulter. » Il y a quand même fait de cette patte-là, hein, les amis. Enfin, pas tous, encore une fois, mais la majorité. Je suis obligé de parler pour la majorité. Hein. Désolé pour la petite élite, mais voilà. Bref, mais là encore, c'était pas un fait d'emblée. Il n'y avait aucun problème dans l'état primordial de l'humanité, aucun problème pour s'en remettre à Dieu. On voit une parfaite docilité à ses desseins, une parfaite docilité à la façon dont il conduit les choses. Dans le deuxième chapitre de la Genèse, on voit les consignes qu'il donne au premier homme, lorsqu'il était encore seul, ce pauvre homme. Et voilà, il l'établit gardien du jardin, mais aussi cultivateur. Il lui donne tout en héritage, sauf le fameux fruit dont il ne faut pas manger sous peine de mort. Il regarde avec une affection toute paternelle la façon dont Adam nomme les plantes, les animaux. C'est très touchant de voir ça. Et Adam ne récrimine pas, et pour cause. Tout est luxe, calme et volupté, ou harmonie, quoi. Voilà. Le problème, c'est que, à partir du moment où ils ont cédé aux avances de l'autre, là, en voulant croquer du fruit pour connaître le bien et le mal, connaître le bien et le mal, je sais qu'on peut donner beaucoup d'interprétations à cette expression, mais c'est notamment être à soi-même sa propre gouverne, se donner à soi-même des bornes de droite et de gauche. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, je vais en décider. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Vous voyez le problème. Bon. Alors, pour ce qui nous concerne, nous autres, qui avons reçu la grâce du baptême, il faut que nous considérions l'étau paradoxal dans lequel nous nous trouvons. Un étau qui est quand même puissant et qui est douloureux, du moins, il devrait l'être. J'espère qu'il l'est. D'une part, nous savons que nous sommes faits pour la sainteté, pour devenir Dieu, à la manière dont j'ai essayé de le dire brièvement, donc pas une personne divine, mais participant de la nature divine. D'une part, donc, nous sommes programmés pour ça. Le baptême nous a mis non seulement notre nature humaine à l'image, à la ressemblance de Dieu était faite pour ça, de loin, mais le baptême est venu configuré pour la sainteté. Et d'autre part, et j'allais dire tout aussi puissamment, voire même plus puissamment, il y a une autre inclination en nous, une répugnance à la sainteté qui nous fait peur. Nous peinons, comme Simon-Pierre, à avancer en eau profonde. Il nous semble que nous allons enfoncer, qu'il y a quelque chose de pas très... comment dire, dans lequel nous ne gagnerions pas à faire trop confiance. Il y a un piège, il y a un truc. Voilà. Alors, pour tenter de ménager chèvre et chou, c'est-à-dire cet attrait puissant à la sainteté, mais cet attrait encore plus puissant à répugner à la sainteté, eh bien, nous essayons de nous forger des petites conceptions de sainteté, qu'on appelle des idoles en fait, hein. Des petites conceptions de sainteté à notre mesure, sans trop nous mouiller, qui ne nous demandent pas trop d'efforts. Voilà. Alors je voudrais en évoquer quelques-unes, je pense que ça ne vous parlera pas, parce que c'est les autres qui sont concernés, mais il faut savoir un peu de quoi les autres sont faits. Bon. Alors, je relève une gradation dans les subterfuges, si vous voulez, dans les ruses qu'on invente pour éviter de se confronter vraiment à la sainteté. Je vais de la plus mesquine à la plus généreuse. Tout ça restant quand même assez mesquin, mais bon, il faut quand même faire une gradation dans le mal. Alors, la première ruse, la ruse la plus mesquine, c'est la ruse du bourgeois. Je l'appellerais la ruse du bourgeois. Vous avez compris, puisque j'ai cité Léon Blois, Chesterton, de quel côté pencher mon cœur, donc j'aime bien un peu ces auteurs très vifs, légèrement polémiques, mais sans plus, voilà, un peu décapant quand même, Georges Bernanos, voilà, un Peggy, enfin ces gens-là, Marie-Noël pour commencer, bon, bref. Donc tout ce monde-là a une bête noire qui s'appelle le bourgeois, qui n'est pas du tout une catégorie sociale. Sinon, bon. Ben non, sinon je ne parlerai pas simplement. Enfin, bon, je sais qu'il y a également des aristocrates, ça n'a rien à voir, et puis qu'il y a également des gens de pas du tout. Bon, ok, bon, je ne suis pas là pour parler pour déclencher une guerre des catégories sociales. Bon. Donc la ruse du bourgeois consiste en ceci, à se persuader que la sainteté n'est le lot que de quelques privilégiés. Le bourgeois a des lettres. Bourgeois est éduqué dans les bonnes écoles. On lui a fait lire « Belles histoires, belle vie » ou on lui a fait lire « Regardez je ne sais quel DVD sur la vie d'un saint », etc. Et alors ces êtres hors du commun attirent son attention quand même. Il est bien né. Bon, et puis il constate que Dieu les a pourvus, ces gens-là, quand même, de toutes sortes de dons insignes, de grâces extraordinaires, pensez donc, il multiplie du pain à l'envi, il gagne des batailles comme Jeanne d'Arc, ça c'est bon, c'est plutôt pour les aristocrates, mais bon, ils lisent dans l'avenir, et machin, enfin bon, bref, ils font toutes sortes de choses, ils passent leur journée à faire des miracles, c'est bien sûr, bon, ils se macèrent aussi dans des disciplines assez austères, ils passent des jours et des nuits en prière, tout ça, bon, mais c'est leur boulot, en fait, au fond. Mais c'est ça. Et le Concile Vatican II a beau récapituler toute la tradition lorsque dans la constitution Lumen Gentium, qui considère l'Église et sa constitution, donc notamment son clergé, mais aussi tous les fidèles baptisés, le Concile Vatican II a beau nous dire qu'il y a un appel universel à la sainteté, bon, le bourgeois prête moyennement l'oreille. Respectueusement, il s'incline, mais bon... Je cite Vatican II, « Chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. » Ça porte un nom, ça s'appelle la sainteté, en fait. Voilà. Alors, l'illusion, du coup, ne se dissipe pas trop dans l'esprit du bourgeois qu'il y a plusieurs catégories de sainteté, en fait. Il y a la sainteté des professionnels, la vraie, avec un S majuscule, et puis il y a lui ou elle. Parce qu'il y a aussi des bourgeoises, hein. Il n'y a pas que des bourgeois. Alors voilà, le bourgeois se dit que moyennant une vie honnête, j'ai pas tué, j'ai pas volé, nanana, je vais à la messe le dimanche, je me confesse une fois l'an, je verse même le denier du culte, ma bonne dame, blablabla, tout ça suffit à accomplir les préceptes. Le rôle du baptisé est honoré. Voilà. Et du reste, ça permet aussi à la clé d'obtenir le salut, sans passer par la case sainteté radicale, sainteté vigoureuse, pendant... l'existence terrestre. Voilà. Mais le bourgeois est très heureux s'il apprend que dans sa famille, il y a eu tel homme, telle femme élevée à la gloire des autels, comme on dit. Il s'en fait même une fierté. Enfin, c'est quand même un trophée, quoi. Puis d'ailleurs, de temps en temps, il demande l'intercession de Sainte Gudule de machin chose, parce que c'est quand même c'est la grande tante. Enfin, pour être canonisé, il faut un peu de temps. Alors, Léon Blois, que j'ai déjà cité, vous dit ceci. Le bourgeois ne voulant pas être un saint, il devient nécessaire que d'autres le soient à sa place. Voilà, il est très content d'envoyer au front des personnes très recommandables d'ailleurs. Voilà. Il est nécessaire que d'autres le soient à sa place pour qu'il ait la paix. pour qu'il puisse, désolé, pour, je suis dans un lieu sacré et tout, mais Léon Blois un peu, parfois un petit peu, pour qu'il puisse digérer et rôter en paix. Vous voyez la façon dont, d'un revers de main, Léon Blois, qui avait quand même un train de vie pauvre, même presque misérable, non pas parce qu'il était dénué de talent, mais parce qu'il était trop entier, parce qu'il ne voulait aucune compromission. Il y a, je ne sais pas, qui suis-je pour dire qu'il est saint ou pas, mais enfin, il y a quand même un peu de sainteté chez ce bonhomme. Je voudrais juste vous citer l'introduction d'un livre, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà cité pour partie, pendant une homélie, mais bon, c'est quand même assez sympathique de pouvoir retourner ça, surtout qu'on sait bien que ça ne nous concerne en rien, c'est d'autres personnes que nous. Dans un ouvrage du père Guillaume de Mentière, qui est curé de Notre-Dame de l'Assomption à Paris, qui a prêché les exercices, les prédications de carême. Alors attention, d'autres, je sais bien qu'ici c'est un lieu extrêmement, enfin que j'apprécie beaucoup de fait, une assemblée que j'affectionne vraiment. Mais bon, lui il prêchait les conférences de carême à Paris, voilà, dans la chaire de la Cordère. Alors, et voilà ce qu'il dit. Il dit 20h, comme dans d'autres à 7h, Monsieur Balingrand, religieusement, s'informe de l'état du monde. C'est typique le bourgeois catho. Une voix professionnelle déclame avec gravité la litanie des malheurs publics. C'est ce rituel chaque soir répété que, par un incompréhensible abus de langage, on appelle les nouvelles. Fort heureusement, il y a belle lurette que les catastrophes de la planète ne réussissaient plus à émouvoir la digestion. Il est beaucoup question de ventre, hein, chez le bourgeois, de M. Balingrad. Il s'était forgé avec l'âge cette simple philosophie que le monde était le monde, et qu'à moins d'une improbable insurrection de la Providence, il en serait toujours ainsi. Parce que le bourgeois, bref, je vous dirai ce que Bernanos en dit après. La Providence, il n'aime pas trop, au fond. À peine parvenait-il à dissimuler honorablement, ce bon Balingrand, sa joie de survivre. Et lorsque l'heure venait de la nuit, c'est en toute sérénité que, jusqu'au lendemain, il s'absentait du genre humain pour plonger dans un paisible sommeil. Au matin, la radio lui servait le récit de quelques drames nocturnes rapidement avalés entre café et confiture. Telles étaient les vêpres et les lodes de M. Balingrand, son chapelet d'épouvante quotidienne. Le dimanche, il est vrai, il allait crier à l'église l'ampleur de sa détresse, la virulence de sa révolte. Ah, quelle densité cette demi-heure hebdomadaire! Tous les malheurs de la semaine déversés là, au pied de ce grand dieu fainéant qui tient si mal sa création. Non mais franchement, bon, je suis jaloux. Voyez-vous ce qu'il y a de... pas de Balingrand, hein, enfin j'espère pas, mais... Voyez-vous ce qu'il y a de lamentable, c'est qu'en 50 ans de vie chrétienne, M. Balingrand n'ait trouvé personne pour lui dire « Monsieur, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de même. » D'ailleurs, le lui eût-on dit, cela lui eût paru risible, tant s'était émoussé en lui la radicalité de l'Évangile. Et quoi, lui, l'honnête fonctionnaire au ministère des Postes? Ah, si tout le monde avait sa probité, la terre serait-elle ainsi à feu et à sang? Non, monsieur Balingrand, si tout le monde était comme vous, il est certain que Jésus n'eût pas été crucifié. Le monde s'en serait allé paisiblement à sa perdition, sans que l'ombre d'une espérance ou d'un salut ne vienne troubler sa marche funèbre. Paf. Bon, ça tape. Hein. Mais bon, c'est pour secouer le bourgeois qui est en nous, quand même. Voilà.
Non, Seigneur, je ne suis pas digne.
C'est pour d'autres que moi que vous aurez mieux doté. Très bien. Alors ça, c'est la première forme. Et puis, après, il y a deux autres formes qui identifient très bien le pape François, dans son exhortation apostolique qu'il a promulguée en 2018, que vous avez tous lu, j'imagine, qui est très bien. Gaudete et exultate. C'est très bien, notamment parce que c'est très court. Voilà. Mais c'est très efficace. Non, vraiment. Et gaudete et exultate, donc réjouissez, exultez. Quelles sont ces deux formes totalement profanées de sainteté? La première, c'est ce qu'il appelle une certaine forme de gnosticisme. Vous savez ce que c'est que la gnose? Gnosis, en grec, ça veut dire la connaissance. Les gnostiques, c'était ces hérétiques des premiers siècles de l'histoire chrétienne qui pensaient que on pouvait accéder au salut par la connaissance. Ils étaient souvent bien pourvus intellectuellement, voilà, et il suffisait de bien apprendre son catéchisme, en gros, pour prétendre être saint et pour pouvoir prétendre au salut. Voilà. Et puis, François, pas François, élargit, il dit, c'est pas seulement ceux qui ont, c'est pas seulement les sachants dans l'Église qui pensent qu'ils sont plus saints que les autres, parce qu'eux, ils connaissent bien leur catéchisme, et mon Dieu, ils ne tombent jamais dans telle hérésie ou demi-hérésie, parce que les mêmes vont à la chasse aux hérésies partout. La sainteté consiste pour eux à une sorte de croisade à tout ce qui est un peu déviant. Bon, eux-mêmes étant un peu comme les gardiens du temple, si vous voulez. Voilà. Mais il existe la même forme, une forme un peu parallèle de gnosticisme, de gnose, pour ceux qui ont fait des expériences de Dieu. Là, il ne s'agit plus de connaissances intellectuelles, mais d'expériences de Dieu. Moi, monsieur, j'ai été gratifié. J'ai senti la présence du Seigneur. J'ai fait telle retraite et j'ai été totalement comblé de grâce. Bon, alors, il n'y en a qu'une qu'on peut appeler comme ça, mais ce n'est pas grave. Donc, les autres, les pauvres, n'ont pas eu cette proximité avec Dieu. Je me sais choyé par Dieu, ce qui porte un nom. Je suis un peu saint quand même. Vous voyez, c'est tout aussi énervant quand même, cette sorte de... Et on peut parfois tomber dans cet écueil. Là, je grossis le trait, le pape François l'a grossi avant moi. On n'est quand même pas chimiquement pur, les gnostiques. Mais il y a un peu de ça quand même. Peut-être voilà, c'est telle expérience. Peut-être pas de l'ordre intellectuel du coup, mais plutôt de l'ordre expérientiel. Je penche un peu la tête d'ailleurs pour bien montrer au Seigneur que message reçu, grâce reçue. Je vais essayer d'être à la hauteur, enfin je le serai, parce qu'avec sa grâce tout est possible. Voilà. La troisième forme de ruse, donc une autre forme de sainteté complètement dévoyée, c'est ce que le pape appelle une nouvelle forme de pélagianisme. Pélage, c'est un moine breton. Je ne suis pas entendu, bon, je l'ai déjà fait sa catéchèse. Je me suis mis à dos un certain nombre de bretons, donc je ne reviens pas dessus. Bon, c'est un moine breton, mais il aurait pu venir de n'importe où ailleurs. Et, pas de Saint-Cloud, mais bon, qui a vécu à la charnière du 4e et du 5e siècle, qui était un moine ascétique, très, très violent à l'égard de lui-même, enfin qui en voulait, quoi, et qui était persuadé qu'on pouvait obtenir la sainteté par la pratique d'une ascèse assidue. Voilà, je vais me priver, je vais jeûner. Voilà, je vais faire un carême, mais alors, mon Dieu, vous m'en direz des nouvelles, dignes de ce nom. Je vais jeûner trois autres. Hein, voilà. Le problème, c'est que la sainteté ne s'obtient pas par une somme, fût-elle colossale, d'efforts. Ça ne suffit pas, et surtout, c'est tout à fait inefficient si, au fondement, à la racine, Dieu étant le seul saint, il ne communique pas un peu de cette sainteté pour mettre le feu au tas de bois que nous sommes. Voilà. Alors, conclusion sur toutes ces espèces de dérives, là, de fausses conceptions de la sainteté. Conclusion, je la laisse à Bernanos, dans son livre « Jeanne, relapse et sainte ». Il dit ceci, il s'agit de la médiocrité qui cherche une assurance solide contre les risques du divin. C'est bien vu, contre les risques du divin. On voit dans tout l'Ancien Testament, c'est particulièrement patent, la Dieu qui est évoqué sous la forme d'un feu, dévorant. Le buisson ardent, la colonne de feu à la tête du peuple élu qui erre dans le désert pendant 40 ans. Voilà, sans cesse, le feu. Le feu qui descend du ciel à l'ordre du prophète pour embraser le sacrifice qui a été abondamment aspergé d'eau. Vous voyez, pour montrer que Dieu est tout-puissant, et donc lui, il est le prophète du vrai Dieu. Voilà, Dieu le feu. S'approcher de Dieu requiert toujours d'accepter d'être brûlé. Nous ne sommes pas de la nature divine, nous ne sommes pas à pied d'égalité avec celui qui est tout. Dieu lui-même le dit très clairement à une petite tertiaire de l'ordre dominicain qui est devenue docteur de l'Église, Sainte Catherine de Sienne. Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Bon, ben, ça pose les bases, déjà. Et on sait très bien qu'elle est pourtant l'une des favorites de Dieu. Donc, il ne s'agit pas du tout de l'annihiler ou de l'écraser. Il s'agit de lui rappeler qui je suis. Je suis celui qui suis. Et qui tu es, tu n'es que par participation. Tu es par pure miséricorde. Certes, tu es Catherine de Sienne. Je te permets d'aller parler droit dans tes bottes et les yeux dans les yeux ou s'ouvre un pontife pour lui remonter les bretelles. Bon, c'est moi qui t'envoie. Mais, attention. Voilà, donc on a peur en fait de cela, et pour s'en protéger, alors nos carapaces sont toutes ces formes de sainteté dévoyées qui sont censées un peu refroidir le brûlot de Dieu. Alors, j'entame maintenant, quand même il est temps, la deuxième partie. C'est-à-dire, comment devenir un saint
dans ces conditions.
Voilà. En laissant de côté, c'est promis, toutes ces formes dévoyées, en n'ayant pas peur de... Alors déjà, bonne nouvelle, figurez-vous que nous sommes tous des saints. Eh oui, ça veut pas dire... Je ne donne pas trop dans le... Bien que j'aime bien le chanteur, mais dans la théologie Polnareff, hein, on ira tous au paradis, etc. Non, et enfin, je le souhaite, mais enfin, en tout cas, c'est pas automatiquement et dans un grand spasme de bonheur après une vie pépère que nous irons. Non, le pape dit ce qu'il pense de la génération canapé. Voilà. En fait, c'est les générations canapé. Bref. Mais nous sommes des saints. Contrairement à ce qu'on pourrait penser trop souvent, la sainteté n'est pas un état à acquérir. Ça, je suis désolé pour... Vous êtes tous maintenant un peu coutumiers de mes homélies, mais vous savez, on a tous des marottes, nous autres les prêtres, hein, donc du coup, puis on n'a pas une intelligence incommensurable, donc faut bien qu'on reste un peu dans le sillon, quoi. Et donc, je le redis souvent, et le père Bauman de se citer, non, mais bon, c'est pas moi du tout qui l'ai inventé ce truc-là, mais voilà, la sainteté, c'est pas quelque chose à acquérir au terme de notre pèlerinage terrestre, c'est pas... quelque chose, vous savez, quand les passions s'étiolent enfin et que le grand âge nous contraint à ne plus pouvoir vaquer à d'autre chose qu'à des bondieuseries. Voilà. La sainteté serait réservée à tous nos chers frères aînés et sœurs aînés qui sont dans les EHPAD. Non, pas du tout. Enfin, la sainteté, en fait, elle est une dot qui nous est accordée d'emblée. Et pour l'immense majorité d'entre nous, elle nous a été accordée alors même que nous n'avions pas l'usage de notre conscience. Tout petit bout de chou que nous étions. Nos parents ont eu bon goût de nous donner comme héritage, après nous avoir donné la vie, ils ont permis du moins que Dieu nous donne ce surcroît de vie, et comment, qui s'appelle la sainteté. Voilà. C'est la parabole des talents, en fait. Hein. C'est d'emblée que le maître, avant de partir dans un long voyage, confie à ses serviteurs, à l'un cinq, à l'autre deux, à l'autre un seul. Bon. La sainteté nous est conférée, on l'a compris, à l'occasion de notre baptême, et elle est entretenue par la suite... au moyen des sacrements. Donc, le moyen premier, incomparable et incontournable de sanctification, ce sont les sacrements. Ça paraît bête comme chou, mais voilà. Fréquentons donc les sacrements. Vous voyez, celui qui a une vraie aspiration à la sainteté, ou qui prétend en avoir une vraie, qui se contente d'aller à la messe de temps en temps, ou aux grandes fêtes, disons, qui va se confesser tous les 3 ans, bah non, en fait. S'il n'entretient pas ce trésor reçu, la sainteté s'étiole, hein, désolé. Voilà. L'apôtre saint Paul était très sensible au fait que les chrétiens, que chaque chrétien était un saint, au point qu'il saluait les chrétiens dans ses épîtres sous le nom de saints. Les saints, à vous les saints qui êtes à l'église de Rome, à vous les saints de l'église d'Éphèse, à vous les saints de l'église de Colosse, etc. Ce que, malheureusement, la traduction liturgique francophone a cru bon de rendre par les fidèles. Bon, c'est bien, oui, effectivement, c'est ceux qui ont la foi, bon, ok. Mais c'est quand même beaucoup plus clair si on dit les saints. Sont saints tous ceux qui communient, alors ça, en français ça rend pas très bien, mais en latin c'est plus clair, sont sancti, donc les saints, pluriel, ceux qui communient au sancta, aux choses saintes. C'est comme ça qu'on nommait les sacrements, voilà, qu'on désignait les sacrements. La sainteté, donc, consiste, par les sacrements, à être rendue conforme et de plus en plus étroitement à Jésus-Christ. Voilà. Ceux que d'avance il a discernés, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. On a, aux Galates, vous avez revêtu le Christ, vous qui avez été baptisés dans le Christ. C'est quand même quelque chose qui devrait nous subjuguer, quoi. Vous avez revêtu le Christ, vous qui avez été baptisé dans le Christ. Or, le Christ est Dieu et donc saint, par conséquent, je suis saint. Voilà. Faux chrétien, dit saint Léon, le grand pape, dans une nuit de Noël, lors d'une homélie, chrétien, connaît quelle est ta dignité. Il était évidemment Marie désolée de voir la façon dont se comportaient les chrétiens dans la ville de Rome, qui était déjà peu recommandable à plusieurs égards. Quoi. Il disait, ben alors, chrétien, mais souviens-toi de quelle est ta dignité. Tu as été configuré au saint, au seul saint, à son fils Jésus-Christ. Voilà. Et saint Paul a insisté beaucoup sur le fait que nous avions à vivre In Christo Jésus, il disait dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Il y revient sans cesse. Nous sommes comme configurés à Jésus, mais aussi nous baignons dans le Christ. Il est le plérôme, disaient les pères grecs, dans lequel nous sommes comme dans un bain. Notre bain, c'est Jésus. Donc nous sommes des saints. Tant que nous ne voulons pas sortir de ce bain. Alors, plus concrètement, bon, ben, nous sommes tous des saints, d'accord. Mais enfin, on sent bien qu'il faut quand même faire des petits efforts, là, par-ci, par-là, parce que, bon, tout ça n'est pas encore tout à fait réglé. La première qualité du saint, me semble-t-il, c'est d'abord, ça va vous paraître un peu bête, mais qu'il accepte d'être inquiet. Le saint se reconnaît au fait qu'il est... Alors, toute personne inquiète n'est pas sainte, je n'ai pas dit ça, mais, parce que sinon, ah bon, ça va... Tempérament légèrement inquiet, donc je suis légèrement saint. Bon, non, la sainteté, disait Bernanos, toujours lui, est une aventure, c'est même la seule aventure. La sainteté est faite pour les aventuriers, la sainteté n'est pas de tourpeau, on peut même dire qu'elle implique nécessairement que nous ne soyons jamais au repos, du moins tant que nous sommes sur terre. Et puisque sans repos, se dit en latin, enfin, peut se dire en latin « inquietus », bah, le saint, puisqu'il n'est jamais en repos, est inquiet. Alors, cette inquiétude vient de quoi ? Elle vient du fait qu'il est perpétuellement insatisfait. Non pas à la manière d'un sale gosse, sans doute, qui est jamais content de ce qu'on lui donne, mais voilà, il y a des sales gosses qui ont 80 ans, hein, mais par le fait qu'il n'est jamais rassasié, qu'il n'est jamais un satis, ça veut dire suffisamment. Ça va, j'ai eu suffisamment dans mon assiette, dans ma gamelle, j'ai assez mangé, satis. Non, je suis insatisfait, je n'en ai jamais assez. Les saints sont des êtres enflammés. Ils sont inquiets, ils sont insatisfaits à plusieurs égards. D'abord, ils éprouvent la crainte de Dieu, la crainte, la bonne crainte de Dieu, hein, la crainte révérentielle, la crainte filiale. Ils savent qui est Dieu, parce qu'ils le fréquentent assidûment, et ils ont bien conscience de sa grandeur, de sa pureté. Je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des saints, mais ils ont une délicatesse, ils peuvent être de tempéraments très divers, ils peuvent être très accessibles, ils peuvent être, bon, éminents, je ne sais pas quoi, mais ils ont tous une révérence à l'égard de Dieu qui est tout à fait frappante. Pas une révérence pincée, mondaine, quelque chose de... Ils sont à la fois très proches de Dieu et en même temps extrêmement respectueux, soucieux des droits de Dieu. Ils ne renieront pas sur leur temps d'oraison. Ils n'économiseront pas le fait d'entrer dans une église lorsque l'opportunité leur est offerte, etc. Jamais. Et ils ne répugneront pas non plus à prendre un instant pour parler avec le pauvre, quel qu'il soit, parce qu'ils y discernent Jésus, Dieu, et que Dieu est trop grand pour qu'on passe son chemin sans s'intéresser à lui. C'est très frappant. Donc, crainte de Dieu. Ils sont aussi, conjointement, ils éprouvent la tristesse selon Dieu. Ça, c'est saint Paul qui m'autorise à parler comme ça, c'est bizarre, la tristesse selon Dieu, ça n'a rien à voir avec, ils peuvent être très heureux par ailleurs, ils le sont du reste, mais la tristesse selon Dieu, c'est, ça n'a rien à voir avec la tristesse du monde, dit-il, qui vient du fait qu'on manque de quelque chose, que justement on a faim, qu'on a un deuil, ou qu'on a... non, non, la tristesse selon Dieu, c'est la claire conscience de notre pauvreté, de notre médiocrité. Le saint se sait médiocre. Parce que tant qu'il n'est pas encore dans la gloire, et il lui reste encore une part d'ombre, le saint pêche 7 fois le jour, nous dit l'Ancien Testament, et le saint le sait parfaitement. Voilà. Donc, vous voyez, crainte de Dieu, tristesse selon Dieu, ce sont des mots peut-être dont on a usé, abusé, un peu à tort et à travers. Mais j'espère qu'avec ces explications, vous vous saisissez de ce dont il s'agit. Et puis, il est épris avec passion du bien de ses frères. La vénération qu'il a de Dieu, le souci de Dieu, s'accompagne d'un souci profond et de chaque instant de son prochain. À commencer par leur bien spirituel. Ils ne veillent pas seulement au bien du corps, qu'il sait nécessaire, et Dieu sait que les saints se sont consumés au service des pauvres, dans les hôpitaux, partout, voilà, pour recueillir celui qui a besoin de soins corporels, mais toujours ils veillent aux soins spirituels. Ils sont devant le spectacle de leur misère, ils sont épris jusqu'aux entrailles. Vous savez, ces fameuses entrailles de miséricorde de Dieu, Rahamim. Rahamim en hébreu, c'est la miséricorde de la mère qui éprouve parce qu'elle a un lien par les entrailles, par les tripes, la miséricorde qu'elle éprouve à l'égard de son petit. Elle est inquiète, elle est toujours soucieuse de savoir s'il va bien, etc. parce qu'elle le porte dans son sein ou elle l'a porté dans son sein. Rahamim, c'est Dieu. Voilà. Eh bien, le saint, il a des entrailles de miséricorde. Revêtez des entrailles de miséricorde. C'est d'ailleurs ce que nous dit Dieu dans l'Écriture. Et il ne s'arrête jamais. Saint Dominique passait ses nuits à prier, dit-on, après avoir passé ses journées à prêcher et à bourlinguer partout en Europe. Il passait ses nuits à prier et à faire pénitence en disant « Mon Dieu, que vont devenir les pécheurs ? Que vont devenir les pécheurs ? Que vont devenir ?» Il n'arrêtait pas. Voilà. Le saint curé d'Ars, je n'ai pas besoin de vous le décrire, vous connaissez tout comme moi, bon, etc. Un saint Vincent de Paul, il m'est cher, évidemment, parce que c'est mon saint patron, et c'est un des patrons du diocèse, étant donné qu'il a été curé de Clichy, un court temps, mais quand même, eh bien, ça suffit pour dire qu'il est du diocèse, en quelque sorte. Saint Vincent de Paul, c'est cela. Là aussi, je le raconte régulièrement, pardon, mais c'est beau quand même, les tirades de saints, comme ça, la beauté, la noblesse de leur comportement. À la reine qui l'assistait sur son lit de mort, la reine assistait Saint Vincent sur son lit de mort, il avait inversé le... Eh bien, Saint Vincent était tout penaud parce que, voilà, elle le sentait très inquiet. Mais qu'avez-vous, monsieur, mais madame, j'ai pas fait assez, Saint Vincent de Paul, quand même. Je n'ai pas fait assez. Pourquoi êtes-vous inquiet ? Je vais bientôt comparaître devant mon Dieu et je n'ai pas grand-chose à lui présenter. Je n'ai pas fait assez. Alors la reine, monsieur, qu'auriez-vous pu faire de plus ? Mais davantage, madame, davantage. C'est fou quand même, cette insatisfaction perpétuelle. Donc il faut être inquiet. Cependant, cette inquiétude des saints, cette insatisfaction, s'accompagne d'une paix profonde. La paix de celui qui se sait réellement racheté par le Christ. La paix de celui qui se sait aimé d'un Dieu qui est son Père. Je ne sais pas si vous avez jamais... Enfin, bien sûr que oui, mais je ne pense pas que nous fassions suffisamment attention à cela. L'opportunité, la chance, le privilège que nous offre notre belle religion. Les Juifs concevaient déjà Dieu comme un Père, mais c'était quand même un Père distant. Les musulmans ne le conçoivent pas, mais alors pas du tout comme un Père. Et je ne parle même pas des autres religions. Notre belle religion porte ce message fondamental que notre Dieu est notre Père. Quand vous priez, dites « Abba », dit Jésus, « petit papa ». Mais dans quelle autre religion on a l'audace de s'approcher du Tout-Puissant en lui disant « petit papa » ? Et quelle paix au cœur ça confère que de savoir que Dieu est un Père. Celui que Jésus décrit en long, en large et en travers, « Mon Père est votre Père », lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez pas de savoir de quoi vous serez vêtu, etc. Votre Père sait ce dont vous avez besoin, il vous l'accordera. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera, etc. » Bon, vous voyez, en permanence. Donc, il suffit de songer à la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui, comme peu d'êtres humains l'ont éprouvé, avait tout compris, en fait. La voix de l'enfance, la petite voix de l'enfance, c'est ça. Il faut dire qu'elle avait un sacré père, qui lui a été une bonne image, un beau reflet de ce Père éternel. Il l'a mis sur la voie, quand même, son petit papa de la terre. Mais bon, ça n'a pas suffi. Il a quand même fallu que Dieu donne sa grâce pour qu'elle conçoive que Dieu était un père. Et que du coup, plutôt que d'essayer de monter vers le ciel avec ses petits poignets, forcément limités, il fallait qu'elle se laisse faire. Portée par les bras de Dieu, comme elle se faisait porter volontiers par les bras de son Père de la terre. Vous connaissez tout comme moi cette comparaison entre l'ascenseur et l'escalier. Voilà, elle prend des comparaisons contemporaines pour expliquer le mal qu'elle se donnerait à monter les marches par son propre fait et la praticité de ces instruments nouveaux qu'on vient de mettre dans les immeubles bourgeois. Mais là, c'est sociologique, ça n'a rien avec la bourgeoisie, rien à voir avec la mauvaise bourgeoisie du faux-saint qui permettait de monter. J'imagine en train d'appuyer sur le bouton. Enfin, je ne sais pas si ça marchait avec un bouton à l'époque. Mais... Voilà, en tout cas, elle s'est dit, mais c'est ça en fait. Dieu, mon Père, je monte dans le truc, je me laisse porter. Les saints sont comme ça. Ils sont à la fois des suractifs, insatiables, et ils sont en même temps totalement remis entre les mains de Dieu, leur Père, et ils attendent tout de lui. Mais jusqu'à des... Vous avez en tête tel ou tel épisode d'une biographie de saints ou des saints que vous avez connus en chair et en os qui vous ont touché par leur abandon incroyable à Dieu, quoi. Ils osent tout. Puis parfois, ils font des remontrances aussi, parce que quand même, le père, s'il dit qu'il est père tout, allez, j'essaie d'être un fils, une fille, il faudrait quand même m'exaucer, là, parce que ça va bien. Hein. Ça ne m'étonne pas que vous ayez si peu d'amis, hein. Thérèse d'Avila, vous connaissez ça, bien. Quand on voit la manière dont vous les traitez, il va falloir être la réformatrice du Carmel et la fille bien-aimée du père pour oser s'adresser à Dieu comme ça. Ah, franchement, bon, enfin, je m'en vais. Voilà, bon, elle revenait l'instant d'après, j'imagine. Voilà. Et parce qu'il a la claire conscience que Dieu est un père et que lui est un enfant, petit enfant, eh bien, il vit comme un enfant. Donc le saint vit au présent. Il vit au présent et il s'émerveille de ce présent. Alors là, c'est difficile, évidemment, lorsqu'on a charge d'âme, de famille, d'entreprise, ou je ne sais quoi, mais tout de même, vivre au présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. La seule période du temps qui existe véritablement, qui a une consistance, mais qui est en même temps tout à fait éphémère, c'est le présent. Dieu ne parle qu'au présent, disent pas mal un certain nombre de saints. C'est très bien vu. Ne t'inquiète pas de ce que demain sera, non. Ne te morfonds pas de ce que hier fut. Sois. On entre un peu, vous voyez, dans cette... Puisqu'on est saint, on participe un peu de l'être de Dieu, je le dis. Et Dieu est dans un éternel présent, lui. Je suis celui qui suis. Et donc il nous permet par la grâce, communiquant sa sainteté, à nous, pauvres baptisés, d'être, plus facilement que si nous n'avions pas le baptême, au présent. Calme-toi. Non seulement tu sais que tu as un Père, mais je te permets d'être pleinement au présent. Sois un saint. Fais ce que dois, maintenant. Et ça, tous les saints sont comme ça. C'est quand même... Voilà. Donc, qualité du saint, à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé spontanément, l'inquiétude. Je n'ai pas du tout été exhaustif, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous retenir toute la nuit, il est déjà 21h30, donc j'ai commencé en retard. Eh oui. Il faut que je m'y retrouve dans mes notes. Comment faire alors pour être bien au présent, pour être un saint, pour trouver sa voie, on se fait parfois de la sainteté cette idée qu'elle est... parce qu'il faut dire que Dieu nous met, non pas sur une mauvaise voie, mais il y a une ambiguïté dans ce qu'il nous dit. Il nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et dans le Nouveau Testament, Jésus reprend à peu près les mêmes mots, sauf qu'au lieu de sainteté, il utilise « parfait ».« Soyez parfait comme votre Père parfait l'est ». Comme votre Père est parfait. Donc Dieu est saint et Dieu est parfait. Et il nous demande, il nous propose d'être saint et parfait. Voilà. L'équation est... Non, mais c'est terrible. Il faut que je sois, pour être un saint, parfait. Alors, désolé, je ne connais aucun saint, à part Jésus-Christ. Bon, il a quand même un petit peu des avantages par rapport à nous, au commun des mortels. Il est absolument parfait. Mais nous, non. Et aucun saint n'a jamais été. Pas même la Vierge Marie, j'ose le dire. Toute immaculée conception qu'elle était, elle n'avait pas cette... Elle avait une perfection relative, disent les théologiens. Donc, abandonnons cette velléité d'accéder à une quelconque perfection, c'est mort. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que veut dire Dieu? Parce que Jésus ne ment pas, quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous dit qu'il veut que nous soyons parfaits? En latin, l'étymologie est toujours très utile. Perficere, en latin, ça veut dire... Il y a plusieurs traductions possibles, mais j'en aime une qui va me servir là, c'est accomplir. Celui qui est parfait, c'est celui qui accomplit. Ah ben voilà, c'est pas celui qui est sans défaut, sans tâche, c'est celui qui accomplit. Donc, ma sainteté viendra à mesure que je progresserai. Je l'ai eu d'emblée par mon baptême, il faut que je l'entretienne, il faut que j'accomplisse. Ben quoi donc ? Il faut que j'accomplisse ma vocation. Ce que Dieu attend de moi et de personne d'autre. Je suis unique. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, etc. Nous dit l'Écriture, c'est magnifique. Il n'y a sur cette terre, il n'y aura et il n'y a jamais eu personne qui pourra à notre place accomplir la mission qui est la nôtre, la mienne, je veux dire. C'est tout de même étourdissant de se dire ça, que Dieu a eu la délicatesse d'attendre de chacun de nous un éclat particulier, un rôle unique. Si je ne remplis pas la mission, il manquera quelque chose à la perfection de la création. Pas à Dieu, qu'on ne se donne pas un pouvoir que nous n'avons pas, à la perfection de la création. Il manquera un reflet de la sainteté de Dieu, singulier, ce reflet, que j'avais pour mission de faire fructifier et de manifester. Pardon. C'est quand même... Alors, comment trouver notre vocation? Comment savoir quelle est notre vocation? Là aussi, je veux désarmer des idées fausses. On pourrait avoir l'impression que la vocation, c'est la voix du ciel qui sort, ou une personne qui va nous dire « tu fais ci, tu fais ça ». On a suffisamment aujourd'hui de comptes réglés avec des fondateurs complètement délirants qui se sont pris pour Dieu et qui ont cru pouvoir dire « tu as la vocation, tu ne l'as pas, tu m'as... » Attends, doucement. Tout ça se fait par décantation. Conseil étant pris de plusieurs personnes et pas un gourou qui va vous dire « toi t'es là, toi t'es là ». On n'a pas non plus à attendre que Dieu sorte du ciel. Peut-être certains d'entre vous ont lu, et c'est possible, je n'en souris pas, c'est tout à fait possible, une manifestation de Dieu, peut-être extraordinaire, charismatique, pour indiquer ce que Dieu attendait de vous. Fort bien. Rendez grâce, parce que ce n'est pas la voie ordinaire, mais en même temps, inquiétez-vous, parce que ça s'accompagne souvent d'épreuves. Bon. Mais, comment faire la voie ordinaire? C'est très simple, en fait. Saint Augustin, et là-dessus, qui s'est longtemps cherché, vous le savez bien, les confessions en sont l'illustration, le récit très éloquent. Saint Augustin a enfin trouvé sa place quand il a compris qu'il fallait qu'il applique cette maxime qu'il nous apprend lui-même, aime et fais ce que tu veux. Ama et fac quod vis. Aime et fais ce que tu veux. Yallah. Alors évidemment, il y a une manière de comprendre ça. Je l'ai vu sur des t-shirts, je l'ai vu sur des trucs. Bon, je ne suis pas sûr qu'à l'entrée d'un bar, pourquoi pas, ou d'une boîte de nuit, bon, aime et fais ce que tu veux. Oui, enfin, il faut comprendre. Aime et fais ce que tu veux. Par ailleurs, saint Augustin nous parle, il utilise une autre expression, le poids de l'amour. C'est très beau, ça. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous des dispositions, des talents, mais aussi des limites. Voilà, il nous a donné tel talent et pas tel autre. Ensuite, il nous a gratifié, il nous a donné telle grâce et pas tel autre. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre, il a mis en nous des goûts, des désirs, des aspirations. Et tout cela doit nous servir pour mettre le feu, pour embraser la sainteté qui nous a été donnée par le baptême. Et pas d'une autre manière. On n'accède pas à sa vocation, donc on ne devient pas un saint en se conformant à un modèle extérieur artificiel, en se plongeant dans un grand tout. Vous savez, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Mais il faut bien comprendre. Saint Paul ne se prend pas pour le Christ, ou non plus n'essaye d'amener ses apôtres, enfin ses disciples, à tous se jeter dans ce grand magma indifférencié. Il n'est pas bouddhiste, hein. Il est catholique, romain, monsieur. Bon, et oui, il aura Rome tout de même. Et donc, ce qu'il faut écouter, en fait, c'est ces puissantes aspirations qui sont en nous. Dieu est l'auteur de notre nature, et il est l'auteur de notre surnature, de la grâce. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Oui, notre nature est blessée, mais il lui reste de très belles choses. Et donc Dieu met notre nature, nos talents, nos désirs, nos passions, au service de la vocation surnaturelle qui est la nôtre, de cet appel à la sainteté. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est tout à fait libérateur quand même de songer cela. Les saints sont sans exception tous des passionnés. Tous des gens qui ont de grandes passions, de grands désirs, et même des désirs insatiables. Je les ai dit inquiets, et bien à cet égard-là, ils sont particulièrement insatisfaits. Tout le temps, il faut relisez Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et la page où elle décrit elle-même comment elle a saisi sa vocation. Elle voulait être croisée, missionnaire, prêtre, cloîtrée, machin, enfin tout à la fois. Bon, puis elle s'est pillée dans le feu de son élan, elle comprend que... Pour être tout à la fois, et donc elle n'a renoncé à rien, la cocotte. Elle ne dit pas, non, bon, je vais me ranger, parce que pour être un croisé, il faut être un bonhomme, pour être un prêtre, vraisemblablement aussi. Je ne peux pas être écloîtré et missionnaire, il va falloir que je choisisse. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que nous aurions dit, nous, déjà. Enfin, si nous avions pu en arriver là, ça aurait déjà été pas mal. Mais elle dit, non, non, en fait, je prends tout. Mais tout, oui, tout. Oui. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Donc, je serai tout, dit-elle. Puisque c'est le même feu qui embrase, normalement, le croisé, le missionnaire, etc. C'est quand même... si ça, c'est pas une bonne femme de désir, mais c'est parce que c'est... Je vous parle pas de Thérèse d'Avila, sa grande aînée, de Thérèse de Calcutta, sa petite sœur, enfin bon, bref, tout ce monde-là, quand même, est assez... Voilà. Donc, il faut que nous identifions quels sont... Ça, c'est un bon travail de carême. Je sais pas. Quels sont nos talents, quels sont nos désirs, quelles sont nos aspirations. Voilà. Après, il faut faire le tri, quand même. Il faut pouvoir... ce ne sont pas ces seules aspirations, ces seuls désirs qui doivent nous gouverner. Il faut recouper ça avec d'autres choses. Il faut recouper ça avec des conseils que nous aurons pris à l'extérieur. Il faut recouper ça avec les événements qui nous adviennent. Les événements, c'est moi, dit Dieu. Donc, mais vous voyez, cette espèce de manière que Dieu a de nous gouverner, qui n'a rien de la tyrannie avilissante, rien du tout. Nous n'avons pas à avoir peur de la sainteté, parce que Dieu ne nous veut que du bien. Et que Dieu ne veut que l'accomplissement des désirs puissants et nobles qui sont en nous. Voilà. Un candidat au séminaire qui aurait peur du sacerdoce, ben, on lui dit au revoir, quoi. Un fiancé qui dit « Ah, ma fiancée ne me dit rien. » Mais elle est pieuse, donc je pense qu'on va faire un mariage pieux, puis comme ça on va pieuser toute notre vie. Oh là là, attends, là, c'était pas le feu, mon garçon, laisse tomber. Et ainsi de suite. Telle entreprise. Oui, je pense que je vais entrer dans tel service d'église, nanana. Mais alors vraiment, ça me répugne. Je ne peux pas voir un malade. C'est pas compliqué, ça me rend malade. Bon, ben, on va peut-être changer. Et, on recherche, on embauche les scouts. Vous voyez, enfin bon, ils sont malades aussi, mais c'est autre chose. Mais voilà. Vous voyez, scout, ça. Et scout, quoi d'elle. Voilà, donc, ça paraît tout bête ce que je vous dis là, mais je pense que, vous voyez, le poids de l'amour. Sache quel est le poids de ton amour, où te porte ton cœur, et c'est très probable que Dieu t'attende là. Et qu'il te donne les grâces pour accomplir toute ta vocation, donc accéder à la sainteté, selon cette ligne-là, et pas telle autre. Tu es passionné de dessin, eh bien, deviens Frangelico. Tu es passionné de jeu avec les gamins, tu seras Don Bosco. Tu es passionné, et ainsi de suite. C'est quand même incroyable. Il y en a pour tous les goûts. Donc, engagez-vous, quoi. Voilà. Et ça tombe bien, parce que dans la paroisse, il y a beaucoup de services, faits pour des tempéraments très, très différents. Bon. Voilà. Et il faut écouter la voix des prêtres. Voilà. Et puis les événements, ma foi. S'il nous advient tel événement, on est très sensible aux événements contrariants, bien sûr. Telle maladie, telle difficulté, telle, pas ce qu'on escomptait, ben oui, mais il y a un sens. Il est douloureux, mais il y a un sens. Ma mission va passer par là, et je serai un grand saint, une grande sainte. Voilà. En gros, c'est vraiment une école de les saints sont, par-dessus tout le reste de l'humanité, les plus réalistes des êtres humains. C'est tout sauf des idéalistes, en fait. On a l'impression qu'ils sont idéalistes parce que ils ont des rêves en grand, quoi. Mais ils entreprennent des choses complètement tarées, quoi. Les fondateurs d'ordre, les trucs, les machins, ceux qui accueillent 200, 300, 400 enfants nécessiteux, mais comment on va les nourrir? T'inquiète. Donc ils ont des désirs complètement fous, mais par contre ils ont les pieds sur terre, tête dans le ciel, pieds sur terre. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est la connexion entre leurs désirs et la grâce de Dieu, la providence. Et les conseils qu'ils prennent. On n'a jamais vu un saint qui n'est pas un conseiller spirituel. Hein. Jamais. On ne se fie pas à son propre conseil. On va dans le mur, franchement. Oui, mais moi, je suis un petit peu particulier. C'est Dieu seul. On m'avait dit ça un jour. Dieu seul est mon... Ah bon. Dans ce cas, personne ne peut rivaliser avec Dieu. Donc, je ne vous recommanderai personne de mes confrères. Exactement. Voilà. L'école du réalisme. C'est ce que dit le père Charles de Foucault. Saint Charles de Foucault désormais, il dit se convertir, autrement dit, entamer son chemin de sainteté, ce n'est pas devenir ce que nous rêvons d'être. Il sait de quoi il parle, le Saint Bonhomme. Ah oui, alors lui, il a rêvé à beaucoup de choses. Et pourtant, petit à petit, c'est toujours avec ce puissant désir, et même un désir de plus en plus puissant, il a trouvé sa place. Bizarre, la place. Je pense que si on avait parlé au vicomte Charles de Foucault de Pontbriand, officier de cavalerie à Saumur, coureur de jupons et dégommeur de bouteilles, ce qu'il pensait d'un gars hirsute, famélique, aux dents qui tombent, à la barbe pas du tout égale, voilà, tout ça, qui est mort sans avoir rien fondé, non mais le vicomte, ce serait... nous aurait jeté les gants et hop, le lendemain sur le pré, c'était vite fait, quoi. Donc, enfin non, parce qu'il semble qu'il était très mauvais, tireur. Bon, n'importe. Et donc, vous voyez, l'école du réalisme, ce que nous dit d'ailleurs François de Sales, saint François de Sales, éminent connaisseur des âmes, qui dit ceci à Madame Brûlard, peu importe qui elle est, l'histoire ne l'a pas retenue, contrairement à son éminent confesseur, ne semez pas vos désirs dans le jardin d'autrui. Et c'est toujours très imagé avec François de Sales, c'est très beau. Voilà. Ne semez pas vos désirs dans le jardin d'autrui, cultivez le vôtre. Ne désirez pas être autre chose que ce que vous êtes, mais désirez être fort bien ce que vous êtes. C'est très bon ça. Surtout si on a l'impression d'essuyer échec sur échec, ou ne sais quoi, de ne pas pouvoir mettre à exécution un plan quinquennal, voilà. Attends. Ou d'être l'herbe est plus verte ailleurs, j'en ai ras le bol de mon foyer, pourquoi je me suis engagé avec lui, elle, machin, les enfants commencent à me sortir partout, bon, je ne peux pas du tout vaquer à la prière, je ne peux pas du tout, etc. Oui, oui, mais soyez parfaitement ce que vous êtes contraint d'être, en quelque sorte, et vous serez sainte, ou saint. Bon, je pourrais encore y passer des heures, mais il faut que je sois raisonnable, parce que je ne voudrais pas que vous ne veniez plus. sinon, ça va devenir un peu comme Catéchum. Bref. Alors, voilà, donc toujours en gros, c'est cette qualité, je récapitule les qualités du saint, quoi. C'est d'abord, c'est un baptisé, donc nous sommes saints. C'est quelqu'un qui a qui est en perpétuel insatisfaction, perpétuelle, il ne se met jamais au repos, le repos veule du bourgeois, quoi, qui estime que ça y est, il a fait, le compte est bon, les jeux sont faits, j'ai fait mes 8 heures de boulot quotidien, je peux désormais tirer le rideau et vaquer à d'autres occupations qu'à celles qui me rapprocheraient de Dieu, quoi. J'ai bien droit à des petites compensations à un 13e mois, quoi. Hein, bon. Donc, non, mais on est tous comme ça. Si je me montre trop tel que je suis, je préfère vous mettre dans le lot. Non, on est tous comme ça, non. Voilà, et oui. Donc, insatisfait, et qui écoute les puissants désirs qui sont en lui, qui écoute, voilà. Et oui, j'ai pas parlé aussi des limites et des péchés, qui eux aussi, bizarrement, nous aiguille ou nous aiguillonne pour savoir comment devenir saint. Et oui, il faut regarder en face qui nous sommes, ne pas mettre sous le tapis nos défauts, nos limites, nos péchés. Non mais Dieu sait tout. Hein. Et nonobstant notre honneur, il continue à projeter, à vouloir et même à ordonner que nous devenions des saints. Il nous connaît. Seigneur, délivre-moi de cet aiguillon de la chair, et par 3 fois je demandais à Dieu, etc. Oh, Saul, enfin devenu Paul, par ma grâce, enfin c'est Dieu qui parle, ma grâce te suffit, d'accord? Car c'est dans ta faiblesse qu'éclate ma puissance. Pas de saint non plus qui ait eu de grands défauts. Là encore, j'accepte la Vierge Marie et a fortiori le Seigneur Jésus. Pas de saint en fait. Il y avait des saints caractériels, mais tous travaillaient contre quand même, il ne faut pas dire « Ah bon, du coup, tranquille, Saint Jérôme était donc un grand caractériel, je peux me permettre de jeter les clients à la porte sans toute manière. » Non, non. Ils avaient tous un talon d'Achille, tous un aiguillon comme Saint Paul. Quelque chose qui leur permettait de se souvenir qu'ils n'étaient pas grand-chose au fond. Et qu'ils ne progressaient en sainteté que moyennant le don de la grâce de Dieu, qui pardonnait encore et toujours. Donc il ne faut jamais se désespérer. de grands pécheurs qui sont devenus des saints. Le bon larron est là pour nous en persuader, quand même. Aujourd'hui même, avec moi, je te le dis. Voilà. Je sais que ta traduction est discutée, mais quand même. On ne sait pas si Jésus a dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu iras en paradis avec moi » ou si c'est « Tu iras en paradis avec moi aujourd'hui ». Bon. Les exégètes se disputent. Enfin, en tout cas, il a bien fini. Pour entrer au paradis, il faut être saint. Le bon larron est saint. Ouais. Il y a les ouvriers de la 11e heure, il y a tout ce qu'on veut, très bien. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus, quand même. Parce que... Alors, si tout va bien... Ouais, voilà. Comment, en fait, un saint, voilà, pour terminer ce trop long topo, le père Jacques Philippe, vous voyez qui il est, un prêtre de la communauté des Béatitudes, tout à fait recommandable, qui a écrit pas mal de petits bouquins très pratiques de conseils de vie spirituelle. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Appeler à la vie », tout petit bouquin, dans lequel il dit ceci, comment accomplir sa vie, hein, accomplir, perfigéré, comment être parfait, comment être saint. Eh bien, il nous faut, dit-il, renoncer à la maîtrise de l'existence. Mais comme ça fait du bien, non? Et d'ailleurs, tous les psychologues de bonne ou mauvaise facture actuelle nous parlent de ça, de la déprise de soi. Parce qu'on est dans une société complètement technocratique, qui est arc-boutée sur la recherche d'efficacité à tout craint, et qui est incapable de se dessaisir. Notre vie citadine nous donne du reste l'illusion que nous ne sommes pas tributaires des saisons et autres. Bah si, en fait. D'ailleurs, régulièrement, malheureusement, les cataclysmes viennent nous le rappeler rudement. Donc oui, ici, en fait. On est à l'abri nulle part de la succession des saisons et des dérèglements climatiques. Et bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut... admettre, c'est ce qu'il dit, voilà, ne pas vouloir programmer nous-mêmes notre bonheur. Il y en a un qui y pense de toute éternité pour nous, parce que sainteté, évidemment, et bonheur sont étroitement conjoints. Et c'est ça qui est, voilà, Dieu nous a créés pour la béatitude. Et cette béatitude, que tous les théologiens l'ont très bien étudié, singulièrement ceux du Moyen-Âge, et notamment Thomas d'Aquin, saint Thomas nous parle de la béatitude anticipée. La béatitude, ce n'est pas pour demain, un demain incertain. Oui, elle sera consommée dans la gloire. Mais dès aujourd'hui, nous sommes déjà bienheureux. Bienheureux êtes-vous, nous dit Jésus. Si, etc. Toutes les béatitudes. Elles nous mettent déjà le cœur en joie. Voilà. Donc, il faut accepter, nous dit le père Jacques Philippe, de nous laisser conduire par la vie, dans les événements heureux comme dans les circonstances difficiles, en apprenant à reconnaître dans ceci des appels qui nous sont adressés jour après jour. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous aurait été d'un quelconque soutien, ou au contraire, si vous allez ressortir de là en vous disant « bon, bah, dans ces conditions, comme les apôtres disent à Jésus, enfin, je... Mutatus mutandis, comme les apôtres disent à Jésus, bon, dans ce cas-là, qui peut être sauvé, maître ?»« Ah, mais... personne ?» Jésus répond, il reste un peu. Ah non, mais c'est impossible aux hommes. Ah d'accord, bon, dans ce cas. Mais à Dieu, je vous dis, tout est possible. Donc, ce carême va être l'occasion, j'en suis certain, notamment grâce à cette petite contribution. Non. Je vous invite... Ah oui, on m'a demandé de...